Nous allons lire maintenant la parole de Dieu, telle que nous la trouvons dans l'évangile de Marc, Marc au chapitre 10, les versets 42 à 45. Marc 10, 42 à 45. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Que l'Éternel puisse bénir sa parole et sa sainte influence dans notre vie. Amen. »
Le Seigneur Jésus vient de nous rappeler une de ses paroles fortes. S'identifiant lui-même au Fils de l'homme, il disait que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Cette leçon-là est vraiment une leçon très importante. Et j'aimerais ce matin que nous puissions vraiment l'enregistrer, l'accueillir et surtout en faire notre propre devise, chacun de nous individuellement et nous tous ensemble réunis en tant qu'Église. Jésus a parlé à plusieurs reprises de servir et en particulier lorsqu'il s'est adressé à ses disciples. Je vous invite à ouvrir l'évangile de Marc, au chapitre 9 cette fois-ci, donc un chapitre avant le texte que Samuel vient de nous lire. Dans ce chapitre, on voit une partie du ministère de Jésus en Galilée. Jésus a été illuminé de la gloire de Dieu sur une colline de Galilée. Puis il a traversé toute une partie de cette province pour arriver enfin à la ville de Capernaum. Et au verset 33 de ce chapitre 9 de Marc, nous lisons ceci. Ils arrivèrent, c'est-à-dire Jésus et ses disciples, à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors, il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous. » Et le serviteur de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Les disciples de Jésus sont des personnes qu'il a choisies lui-même, en particulier les 12 qui ferment ce cercle restreint qui a accompagné Jésus de près tout au long de sa mission sur la terre. Ces gens commencent à prendre conscience de l'importance de Jésus. Jésus leur apparaît de plus en plus comme un être extraordinaire. Il n'est pas un humain comme les autres. Il a la faculté de s'intéresser aux besoins de ceux qu'il rencontre, de rétablir leur santé, de leur redonner goût à la vie, de les remettre debout, de leur ouvrir les yeux, de leur ouvrir les oreilles, de les libérer de toutes les idées qui les tenaient enchaînées. Jésus est au service de la population qu'il croise chaque jour dans les villes et les villages et sur les routes de Galilée. Et les disciples, frappés de cette importance qu'il décèle chez ce personnage, se demandent s'ils ont, eux, cette grandeur d'âme. Et finalement, ils ont ce réflexe bien humain de se comparer les uns aux autres et de se poser cette question. Mais voyons donc, lequel d'entre nous est le plus grand ? Alors bien sûr, ils excluent Jésus de cette comparaison. Jésus, sans aucun doute, ils auraient tous dit « c'est lui le plus grand ». Mais là, leurs préoccupations les concernent eux. Et la réaction de Jésus est très intéressante. Il est conscient qu'ils ont discuté de ça. Il a des oreilles, elles fonctionnent. Quand on marche en groupe, même si on n'est pas à côté de 12 personnes à la fois en permanence, on peut déceler quelques-uns des sujets de conversation qui occupent la marche. Et Jésus ne leur fait aucun reproche, mais simplement, il les rassemble, fait entrer un petit enfant au milieu d'eux et leur dit des choses très simples. Vous voulez être premier, soyez dernier. Soyez dernier dans la mentalité de la société dans laquelle ils vivent, c'est-à-dire soyez, alors on peut traduire le mot par serviteur ou par esclave, parce que dans le langage de cette époque, c'est le même mot. Pour nous, ça fait une énorme différence, parce que nous habitons, nous vivons dans des sociétés qui en principe ont légalement aboli l'esclavage. Mais je suis sûr qu'aux oreilles et dans le cœur de certains d'entre nous ici présents, le mot esclave a une résonance particulière, parce qu'il rappelle une partie de l'histoire des ancêtres, de ceux qui ont été victimes dans les siècles passés et de ceux qui un jour ont été libérés, affranchis de l'esclavage, et dont certains peuvent avoir encore le sentiment que certaines situations économiques, certaines situations relationnelles ressemblent d'une manière ou d'une autre, peut-être pas légalement, mais à une forme d'esclavage. Et Jésus a l'audace de dire, si vous voulez être les premiers, devenez les esclaves. Et il ajoute, les esclaves de tous. Pas simplement des gens aimables, agréables, que nous pourrions choisir, mais de tous. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément une parole facile à accepter. L'enfant que Jésus a mis là au milieu du groupe n'est pas seulement présent, mais face à cette présence, Jésus a une attitude particulière. Le texte nous dit qu'il le prend dans ses bras. C'est-à-dire qu'il fait de cet enfant la focalisation non pas d'un intérêt intellectuel ou logique, mais d'un intérêt affectif. Et cet enfant, une fois dans les bras de Jésus, Jésus se donne en exemple de façon simple. Celui qui accueille un enfant m'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire que la personne que l'on est prêt à servir, en lui donnant notre affection, en lui donnant cette attitude qui est normale en face d'un enfant, c'est-à-dire de ployer les genoux pour se mettre à son niveau, ouvrir ses bras pour l'accueillir, ouvrir sa bouche sans violence, avec simplicité, pour lui dire un câlin verbal. Jésus dit, voilà, le service, l'esclavage auquel je vous convie, c'est celui-là. Parce que c'est le caractère de Dieu qui est fait comme ça. C'est pas seulement la mission que vous me voyez accomplir sur cette terre, dans cette terre de Galilée, mais c'est aussi comme ça que se trouve celui qui m'a envoyé. C'est le caractère même de Dieu qui est d'être serviteur. Alors c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer un Dieu esclave. On a l'impression que pour Dieu, ce qui sied le mieux comme situation, c'est le trône, c'est la gloire, c'est le triomphe, ce sont les honneurs, avec les fanfares, avec une garde rapprochée, avec toute la richesse d'un palais, le décorum qui convient. Mais ce n'est pas l'image que Jésus cherche à transmettre de son Père qui l'a envoyé. Il préfère l'image de cet homme actif, qu'on appelle esclave dans la société, et dont la fonction est de satisfaire les besoins de son maître. Et Jésus va répéter donc à ses disciples, dans le chapitre qui suit, cette même leçon. Je suis le Fils de l'homme. Je suis venu non pas pour être servi, donc assis sur un trône, comme le rêvaient Jacques et Jean, qui lui avaient demandé ce privilège d'être assis l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, ce qui avait suscité la réaction de ses autres disciples, qui se disaient finalement, voilà, eux ont résolu le problème de la question qu'on se posait en chemin. Qui est le plus grand ? Ben, Jacques et Jean croient que c'est eux. Et ça suscite la réaction des autres. Et Jésus va leur dire ça, c'est un fonctionnement purement humain. C'est le fonctionnement de toute personne qui est en recherche de pouvoir. Et il va rappeler une partie de l'histoire connue en disant, voilà, ils se font appeler bienfaiteurs. Alors bienfaiteurs en grec, ça se dit évergète. Et il y a quantité de rois qui ont porté ce titre-là dans la société qui a dominé ce territoire d'Israël pendant les 3 siècles qui ont suivi les conquêtes d'Alexandre le Grand. Des évergètes, des gens qui se désignent comme bienfaiteurs et dont le seul bienfait consiste à être assis sur un trône et avoir une tas de gens autour d'eux qui sont à leur service. Et pour cela, il faut lever des impôts importants, il faut soutirer le plus d'argent possible à la population pour payer toute cette cour et tout ce fonctionnement militaire de protection, mais aussi tout cet apparat et ce luxe de la personne au pouvoir. Et Jésus va dire très clairement, parmi vous, ça ne doit pas être comme ça. On dirait que la leçon est difficile à apprendre parce que quand on tourne les pages de notre Bible et qu'on arrive à un texte qui a dû être évoqué ici la semaine dernière puisqu'il y avait un service de Sainte-Cène, dans l'évangile de Jean au chapitre 13, Jésus revient sur ce message. Et ce message est assez simple. Je relis simplement le texte avec vous dans Jean 13 à partir du verset 1er. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Jésus ne se contente pas de dire qu'il est venu pour servir. Il le démontre par un geste qui, dans la société de l'époque, était d'abord réservé aux serviteurs ou à l'esclave de la maison. Un petit peu plus loin, à partir du verset 12, Jésus va s'expliquer. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » En fait, Jésus est en train de dire « Oui, c'est vrai, je suis le Seigneur et le Maître, mais je suis au milieu de vous comme l'esclave de service. Et vous, faites-en autant. » Et en plus, il a le culot de dire « Ça, c'est ce qui vous rendra heureux. » Vous êtes heureux pourvu que vous pratiquiez ces choses. Le bonheur, dit Jésus, dépend de cet état d'esprit que nous adoptons à la suite de notre maître, qui est un état d'esprit de service et pas de domination ou de recherche de pouvoir. Donc on a vraiment l'impression que cette leçon-là n'est pas une leçon anodine, secondaire, dans la pensée de Jésus. Elle est là bien présente, il insiste avec force là-dessus. D'ailleurs, si nous tournons quelques pages en arrière et revenons à l'évangile de Luc cette fois-ci, au chapitre 22, on nous raconte ce qui s'est passé parmi les disciples. Une fois qu'à table, ils ont partagé le pain et la coupe. Et là, à partir du verset 24, Luc nous dit que, visiblement, la leçon n'a pas encore été apprise. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand ? Jésus leur dit : les rois des nations les maltraitent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car lequel est le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » C'est intéressant. Cette fois-ci, il s'agit bien de leur expliquer que ce que le maître fait, les disciples doivent aussi le faire. Que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Et que même s'ils sont à table et qu'ils peuvent se prendre pour plus grand que Jésus en position d'esclave, parce que eux sont à table et que Jésus les sert, pour Jésus, il n'y a pas de différence. Le service est là, non seulement comme quelque chose qui est un devoir, mais comme quelque chose qui est source de bonheur. Et c'est intéressant parce que cette idée-là n'est pas exclusive à Jésus, c'est une idée qui circule déjà depuis longtemps. Par exemple, un très vieux proverbe chinois dit ceci: c'est par le bien faire que se crée le bien-être. C'est une autre façon de dire. Faire du bien permet de se sentir bien. Les écrivains grecs allaient aussi dans ce sens-là. Par exemple, Sophocle, un dramaturge de l'Antiquité grecque, il a écrit ceci: rendre service de tout son pouvoir et de toutes ses forces, il n'est pas de plus noble tâche sur la terre. Cicéron, pratiquement contemporain des gens du Nouveau Testament, ce rhéteur romain a dit ceci: qu'y a-t-il de meilleur, qu'y a-t-il de plus beau que d'être bon et de faire du bien? Oui, il y a des tas d'auteurs contemporains, croyants ou non croyants, qui écrivent sur ce sujet et qui ont découvert ce que Jésus disait déjà: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Par exemple, un auteur contemporain a écrit ceci: en nous mettant au service de tout ce qui est beau, bon et bien, nous nous engageons sur la voie du bonheur. Plus notre action est chargée d'altruisme, plus elle devient pure et rafraîchissante. Alors on pourrait multiplier de cette façon les citations de gens non chrétiens, de l'Antiquité comme des temps modernes, qui ont compris que se mettre au service, c'est une valeur essentielle de la vie humaine qui peut-être au départ peut nous paraître difficile parce qu'elle nous paraît abaissante, est la voie du bonheur. Les disciples de Jésus semblent avoir petit à petit compris la leçon. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 6, on trouve ce récit intéressant qui est souvent sous le sous-titre « Institution des diacres ». On trouve ces mots très intéressants. Chapitre 6 du livre des Actes, au verset 1er. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Et vous savez ce qui en est suivi. On a désigné des personnes pour s'occuper à l'intérieur de l'Église du service. Et le mot qui est utilisé ici, le verbe « servir » ou le mot « service », c'est le mot « diacre »,« diaconie ». C'est le verbe « être diacre ». Et je crois qu'il est important que nous accueillions ce mot-là comme un mot qui concerne tous les croyants et pas simplement une partie de ceux qui ont été nommés pour remplir cette fonction. Il n'y a pas dans l'Église de non-diacre ou de non-diaconesse. Ça n'existe pas. Il est impossible d'être chrétien sans être diacre ou diaconesse, sans être au service. Et c'est des fois affolant de remarquer que dans les églises, on dise oui, mais ça, c'est l'affaire des diacres. Non, non, ça, c'est l'affaire de moi, de chacun et de chacune d'entre nous. Parce que nous sommes tous des serviteurs et des servantes de notre Seigneur. L'Église adventiste a conçu sa mission comme une mission qui est tout à fait axée sur ce dernier verset que nous avions lu. Il ne convient pas que nous délaissions le service de la parole, tel qu'il est appelé un petit peu plus loin dans le texte, pour servir aux tables. C'est un service de toute façon. La diaconie de la parole ou la diaconie des tables, c'est deux façons de servir. Et l'Église adventiste a pris l'habitude de préciser même que la diaconie des tables, c'est une diaconie qui peut avoir trois axes. La santé, et à la suite de Jésus, il est bien évident que Jésus a passé une bonne partie de son temps à rétablir la bonne santé de quantité de ses contemporains. L'éducation, et là aussi Jésus a été un enseignant remarquable. Et enfin, ce que nous appelons dans notre langage contemporain l'humanitaire, c'est-à-dire la satisfaction des besoins fondamentaux que peuvent avoir ceux que nous rencontrons. Et quand l'Église adventiste accomplit ces deux axes de service, le service de la parole, plus le service des tables, c'est-à-dire avec sa facette santé, sa facette éducation et sa facette humanitaire, alors elle est vraiment dans le service et dans sa vocation. Notre église de Damary a choisi de se lancer avec un slogan et un projet qu'on a appelé ÉTAPE, avec ce petit acronyme élargi ta toile, E-T, élargi ta toile, A-P, hein, affermis tes piquets. Et avec ce slogan, notre église s'est dotée d'un projet. Un projet qui est d'abord de cultiver l'état d'esprit de service pour la population au sein de laquelle nous vivons, par différents moyens, et à nous d'être suffisamment inventifs pour trouver des moyens qui correspondent aux trois dimensions du service aux tables, la santé, l'éducation et l'humanitaire. Mais en même temps, le service de la parole dans son axe principal. Et notre Église a besoin d'avancer sur toutes ces dimensions du service. Pour cela, eh bien, notre Église va ouvrir bientôt ce qu'il a été convenu d'appeler une école de disciples. Vous aurez des informations détaillées dans le prochain bulletin que vous recevrez la semaine prochaine. Et vous verrez que des formations vous seront proposées pour nous aider à cultiver à la fois l'état d'esprit de service, mais pour avoir des compétences pour que notre service soit le plus efficace possible. Je vous invite donc à être attentif à tous ces projets et à vous y inscrire. Je suis frappé quand j'étudie la Bible et que je regarde l'utilisation du mot « serviteur ». Il y a entre autres dans le prophète Ésaïe des poèmes extraordinaires qui ont été intitulés par les spécialistes les poèmes du serviteur, les chants du serviteur exactement. Et ce qui est intéressant et ce qui est vraiment stimulant pour tous ceux qui ont à cœur la mission de l'Église, c'est que à deux reprises dans ses poèmes, le fait d'être serviteur est lié à cette vocation exprimée par l'expression « lumière des nations ». Si l'Église est appelée à être une lumière dans ce monde, pour l'ensemble des nations, le chemin passe par le service. Alors ce que je souhaite, c'est que les uns et les autres, nous développions notre esprit de service, mais que les uns et les autres, nous nous engagions dans des services précis à rendre à nos voisins, à nos collègues, à nos proches, mais aussi que dans nos activités d'Église ensemble, nous nous engagions à être au service de la population qui nous entoure, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen.